Chapitre 4. La sorcière des haies. Dans ces parages vivait une sorcière des haies, du nom de Silva Feuille Rouge, dont les amulettes avaient un pouvoir si grand que non seulement ils persistaient d'année en année, mais ils continuaient à protéger ses propriétaires de génération en génération. On raconte qu'elle fabriqua pour Baudrier Loinvoyant un filtre merveilleux qui purifiait l'eau qui le traversait, immense avantage pour un roi si exposé à l'empoisonnement. Au-dessus de la porte de la cité fortifiée d'Eccles, elle suspendit un charme contre la peste, et de longues années durant, les cuves à grains restèrent exemptes de rats et les écuries de puces et autres vermines. La ville prospéra sous cette protection jusqu'au jour où les anciens, dans leur stupidité, ouvrirent une seconde porte dans leurs murailles pour augmenter le trafic des marchandises. La maladie y trouva le moyen de pénétrer dans l'enceinte et tous les habitants périrent dans la seconde vague de peste sanguine. Voyage dans les six duchés de Selkin. Le plein été nous trouva ensemble, Heure et moi, comme toujours depuis 7 années. Il fallait entretenir le potager, soigner les volailles, saler et fumer le poisson en prévision de l'hiver. Les jours se suivaient en une ronde de travaux et de repas, de sommeil et de veille. Le départ d'Astérie, me disais-je, avait efficacement coupé toutes les envies d'aventure qu'avait suscité en moi la visite d'Ambre. Sans avoir l'air d'y toucher, j'avais parlé à Heure d'un placement en apprentissage, et avec un enthousiasme qui m'avait étonné, il avait fait l'éloge d'un ébéniste de Castelserre dont il avait fort admiré les productions. J'avais tergiversé, n'ayant aucun désir de revoir Bourg de Castelserre, mais il avait dû conclure que je n'avais pas les moyens de payer les frais d'apprentissage qu'un artisan aussi habile que Guindast devait exiger. En quoi, il n'avait sans doute pas tort. Quand je lui avais demandé s'il n'avait pas repéré d'autres métiers concernant le bois, il m'avait répondu sans aucune amertume qu'il y avait à Baie de Martelet un charpentier de marine souvent complimenté pour son travail. C'était là un maître beaucoup plus humble que l'ébéniste de Castelserre, et je m'étais interrogé avec gêne. Le garçon n'était-il pas en train de retailler ses rêves à la mesure de mes poches? De son apprentissage découlerait le travail de toute sa vie, et je refusais que mon indigence le condamne à un métier qu'il jugerait tout juste supportable. Pourtant, malgré l'intérêt qu'avait manifesté le jeune garçon, sa prise en main par un maître ne resta guère qu'un simple sujet de discussion tard le soir, près de la cheminée, ce qui ne m'empêcha pas de mettre de côté ma petite réserve d'argent pour payer d'éventuels frais d'apprentissage, et je déclarai même à Heure que nous nous débrouillerions avec quelques œufs en moins au repas s'il souhaitait laisser les poules en couvée certains. Il y avait toujours un marché pour les poulets, et il pourrait garder la somme qu'il en tirerait pour sa cagnotte personnelle. Toutefois, je me demandais si cela suffirait à lui assurer une bonne place. On pouvait trouver un apprentissage dès lors qu'on ne rechignait pas au travail et qu'on avait le dos solide. Certes, mais les meilleurs artisans et ouvriers exigeaient d'ordinaire un droit de placement avant de laisser entrer un garçon prometteur dans leur atelier. C'était en tout cas la coutume de Serre. Un façonnier ne livrait pas facilement les secrets de son art qui lui assuraient des gains confortables. Si des parents aimaient vraiment leurs enfants, ils leur enseignaient leur propre métier ou payaient cher pour les placer chez ceux qui étaient passés maîtres dans d'autres arts. Malgré la minceur de nos moyens, j'étais résolu à trouver une bonne place pour Heure, et je me répétais que c'était la raison pour laquelle j'en remettais sans cesse la recherche. Je ne redoutais pas la séparation, non. Je voulais seulement lui offrir le meilleur. Le loup ne me posa aucune question sur le voyage que j'avais proposé quelque temps plus tôt. Je pense qu'au fond de lui, il était soulagé de le voir repoussé. Certains jours, j'avais l'impression que les paroles d'Astérie avaient fait de moi un vieillard. Dans le cas du loup, les années passant en avaient fait de même, mais ce n'était pas une impression. Il devait être très âgé pour son espèce, bien que je n'eusse aucune idée de l'espérance de vie normale d'un loup. Je me demandais parfois si notre lien ne lui infusait pas une vitalité inhabituelle, et l'idée m'avait même traversé une fois l'esprit qu'il puisait dans mes années pour augmenter le nombre des siennes. Pourtant, Cette pensée s'accompagnait, non d'un ressentiment contre le fait qu'il pût raccourcir mon existence, mais de l'espoir que nous pourrions vivre ainsi plus longtemps ensemble. Car, une fois le garçon en apprentissage, qui d'autre qu'œil de nuit me resterait au monde? Pendant quelque temps, je jouais avec l'idée qu'Imbre allait peut-être revenir me voir, à présent qu'il connaissait le chemin. Mais les journées d'été passaient longues et chaudes, et la piste qui menait à notre chaumière demeurait déserte. Je me rendis deux fois au marché en compagnie du garçon pour y apporter des poulets mûrs pour la vente, des encres et des teintures, ainsi que des racines et des herbes que j'estimais peu connues. Œil de Nuit préféra rester à la maison, car il n'aimait pas plus le long chemin qu'il fallait parcourir jusqu'au carrefour où se tenait le marché que la poussière, le bruit et l'animation excessive du marché lui-même. J'inclinais au même sentiment, mais j'y allais tout de même. Nous ne fîmes pas d'aussi bonnes affaires que nous l'espérions, car les clients avaient plus l'habitude du troc que de l'argent. Pourtant, ce me fut une agréable surprise de constater combien nombreux étaient ceux qui n'avaient pas oublié Tom Blaireau et exprimaient leur plaisir de le revoir au marché. Ce fut, lors de notre deuxième tournée, que nous rencontrâmes la sorcière des haies de Castelserre, celle-là même dont m'avait parlé Heure. Vers le milieu de la matinée, alors que nous exhibions nos produits sur le rabat arrière de notre carriole, elle surgit de la foule et poussa un cri de joie en reconnaissant Heure. Je restai à l'écart, à les regarder bavarder. Il m'avait décrit Gina comme jolie, et c'était exact. Mais je l'avoue, je m'étonnais de son âge, plus proche du mien que de celui de mon assistant. J'avais imaginé une jeune fille qui avait tourné la tête de Heure lors de leur rencontre à Castelserre, mais j'avais devant moi une femme aux abords de la trentaine, aux yeux noisettes, le visage moucheté de taches de rousseur et les cheveux bouclés, d'une teinte qui allait du châtain au brun. Elle avait la silhouette pleine et séduisante d'une femme faite. Quand Heure lui déclara que son amulette contre les voleurs à la tire lui avait été dérobée avant même la fin du jour, elle éclata d'un rire franc et cordial, puis, son calme revenu, lui expliqua que c'était précisément ainsi que le porte-bonheur devait opérer. Le voleur l'avait pris au lieu de s'emparer de la bourse de Heure. Quand il jeta des regards à la ronde pour m'inclure dans la conversation, Gina, elle, m'avait déjà repéré, et elle m'observait avec l'expression que les parents réservent d'ordinaire aux inconnus qui peuvent présenter une menace. Néanmoins, lorsque Heure me nomma, je souris en la saluant de la tête et en lui souhaitant la bonne journée, et elle se détendit visiblement, tandis que son sourire m'apprenait qu'elle m'avait accepté. Elle s'approcha de moi pour scruter mes traits, et je m'aperçus alors qu'elle avait une mauvaise vue. Elle avait apporté ses propres articles, et elle déroula sa natte de paille à l'ombre de notre carriole. Heure l'aida à y disposer ses amulettes et ses élixirs, puis tous deux passèrent une joyeuse journée à échanger les nouvelles qu'ils avaient apprises depuis la fête du printemps. Je tendis l'oreille quand le jeune garçon évoqua ses projets d'apprentissage, et je compris bientôt combien il aurait préféré l'ébéniste de Castelserre au charpentier de marine de Baie de Martelet. Je me mis alors à réfléchir en me demandant si la chose pouvait encore être arrangée. Quelqu'un d'autre que moi ne pourrait-il pas non seulement payer le droit d'entrée, mais aussi négocier l'apprentissage? Imbre se laisserait-il persuader de m'aider dans cette entreprise? De là, mes pensées vagabondèrent jusqu'à cette question. Qu'attendrait le vieillard en retour? Ainsi plongé dans mes réflexions, je sursautai quand Heure m'enfonça son coude dans les côtes. « Tom !» fit-il d'un ton outré. Et je sentis aussitôt que je l'avais mis dans l'embarras. J'ignorais comment. Gina nous regardait tous deux avec l'air d'attendre quelque chose. « Oui ?»«
Tu vois, je t'avais dit que ça ne le dérangerait pas. » reprit Heure d'une voix rauque. « Eh bien, je vous remercie mille fois, si vous êtes sûr que cela ne vous gênera pas, » répondit Gina. « La route est longue et les auberges rares et chères pour quelqu'un comme moi. »
J'acquiesçai de la tête et, au cours des minutes qui suivirent, je compris que Heure l'avait invité chez nous lors de son prochain passage dans la région. Je soupirai intérieurement. Les changements introduits dans son existence par un nouvel hôte le remplissaient de joie, mais... pour ma part, tout inconnu représentait encore un risque potentiel.
Combien de temps faudrait-il avant que mes secrets deviennent trop surannés pour garder leur importance? Je participais peu à leur bavardage, sinon par quelques sourires et hochements de tête. On rencontre fréquemment des sorcières des haies et des magiciens sur les marchés, les foires et lors des festivités. Au contraire de l'art, la magie des haies n'inspire ni respect démesuré, ni crainte, et, à la différence du vif, elle n'expose pas le pratiquant à l'exécution publique. La plupart des gens la considèrent avec tolérance et scepticisme à la fois. Certains qui disent en détenir les secrets sont des charlatans purs et simples. Ils extraient des œufs des oreilles des crédules, évoquent aux filles de ferme des avenirs pleins de richesses et de mariages altiers, vendent des philtres d'amour composés principalement de lavande et de camomille et font le commerce de porte-bonheur fabriqués à partir de lapins démembrés. Bref, ils sont assez inoffensifs à mon sens. Gina, toutefois, n'était pas de cela. Elle n'avait pas le bagout amical qui attire les passants, ni les atours criards et la verroterie clinquante qu'arborent en général les imposteurs. Elle portait la tenue simple d'une forestière, une tunique dans les tons verts qui tombait par-dessus des chaussons d'un marron et des bottes souples. Les amulettes qu'elle mettait à la vente se trouvaient enfermées dans les poches traditionnelles en tissu coloré. Rose pour celles qui concernaient l'amour, rouge pour les passions éteintes, vert pour les bonnes récoltes et d'autres teintes dont j'ignorais le sens. Elle proposait aussi des sachets d'herbes séchées dont je connaissais la plupart et dont les qualités étaient correctement énoncées. Écorce d'orme pour les maux de gorge, feuilles de framboisier pour les nausées matinales et ainsi de suite. Mêlées à ces simples se trouvaient de fins cristaux qui, selon Gina, augmentaient leur pouvoir. Je soupçonnais qu'il s'agissait de sucre ou de sel. Plusieurs plats de terre cuite contenaient des disques de jade, de jaspe et d'ivoire poli et gravés de runes destinées à porter bonheur, à rendre la fertilité ou la paix de l'âme. Ces articles étaient moins chers que des amulettes, car leur but, quoique toujours positif, était plus général, même si pour un supplément d'une pièce ou deux de cuivre, Gina affilait les disques selon les désirs particuliers des clients. Elle attira un nombre respectable de chalands, tandis que la longue matinée se transformait lentement en après-midi. À plusieurs reprises, on l'interrogea sur la nature des amulettes en sachet, et au moins trois clients payèrent leurs articles en bonnes pièces d'argent. S'il y avait la moindre magie attachée aux babioles qu'elle leur vendit, elle restait indétectable à mon vif comme à mon art. J'en entreaperçus une, assemblage complexe de perles scintillantes, de petits bouts de bois et, me sembla-t-il, d'un bouquet de plumes, dont un homme fit l'acquisition pour attirer la bonne fortune sur lui et sa maison, car il cherchait femme. De large carrure, il était musclé comme un laboureur et aussi simple d'apparence qu'une chaumine au toit couvert d'herbe. Il devait avoir mon âge, et je lui souhaitais secrètement bonne chance dans sa quête. La journée était déjà bien avancée quand Bellor se présenta au marché. Il arrivait avec sa carriole tirée par un bœuf et six porcelets troussés, prêts à vendre. Je ne le connaissais guère, bien qu'il fût notre plus proche voisin, à Heure et moi. Il habitait la combe à côté de la mienne et y élevait ses cochons. Je croisais rarement son chemin. À l'automne, nous faisions parfois du troc, un porc gras contre des poulets, quelques journées de travail ou du poisson fumé. De petite taille, maigre mais vigoureux, il se méfiait de tout et de tous et nous adressa un regard noir en guise de salut. Puis, malgré le peu de place dont nous disposions, il joua des coudes pour ranger sa carriole le long de la nôtre. Sa compagnie ne me réjouit pas. Le vif engendre envers tout être vivant une empathie dont j'avais appris à me protéger, sans pourtant réussir à m'en couper tout à fait. Je sentis ainsi que son bœuf avait la chair à vif à cause du harnais inadapté qui le frottait sans cesse, et je perçus la terreur et l'inconfort des cochonnets ligotés en plein soleil. Ce fut donc autant pour me défendre moi-même que par esprit de bon voisinage que je déclarais « Je suis content de vous revoir, Bellor. C'est une belle portée de porcelet que vous avez là. Si vous les meniez à boire, ça les ranimerait un peu, et vous en tireriez un meilleur prix. » Il leur jeta un regard détaché. « Pas la peine de les énerver ni de courir le risque qu'ils s'échappent. De toute façon, ce ne seront sans doute plus que des pièces de boucherie avant ce soir. »
J'inspirai longuement pour me calmer et fis un effort pour tenir ma langue. Je me dis parfois que le vif est une malédiction plus qu'un don, et son aspect le plus pénible est qu'il oblige à percevoir de l'intérieur la cruauté inconsciente des hommes. On parle quelquefois de la sauvagerie des bêtes, mais je la préférerais toujours au mépris aveugle de certains humains envers les animaux. J'aurais volontiers laissé la conversation s'arrêter là, mais Bellor s'approcha pour examiner nos produits. Puis, il eut un petit grognement de dédain comme s'il s'étonnait que nous ayons seulement pris la peine de nous installer au marché. Soudain, il croisa mon regard et remarqua «
Mes porcelets sont de bonne qualité, mais la portée en comptait trois de plus. L'un d'eux était plus gros que ceux-ci. »
Puis il se tut et attendit ma réponse, les yeux fixés sur moi. Ne sachant où il voulait en venir, je dis « Ça devait faire une belle portée. »
« Oui, avant. Avant que les trois autres disparaissent. »
« Dommage, » fis-je compatissant. Comme il persistait à ne pas me quitter des yeux, j'ajoutais « Ils se sont perdus pendant qu'ils pêchaient avec leur mère dans vos prés ?» Il acquiesça.
« Un jour, j'en avais 10, le lendemain, 7. »
Je secouai la tête. Pas de chance. Il fit un pas vers moi.
« Le petit et vous ne les auriez pas vus, des fois. Je sais que ma truie cherche à manger jusque près de votre ruisseau. »
Non. Je me tournai vers Heur. Son visage était un masque d'appréhension. Je remarquai aussi que Gina et son client se taisaient, attirés par le ton vif de Bellor. J'avais horreur de me trouver ainsi au centre d'une telle attention, et je sentis mon sang commencer à bouillir. Mais c'est d'un ton amène que je demandai à mon garçon. « Heur, as-tu vu trace des trois porcelets de Bellor ?»«
Pas une empreinte, ni la moindre crotte, » répondit-il gravement.
Il se tenait parfaitement immobile, comme s'il risquait de précipiter le danger par un mouvement brusque. Je revins à Bellor. « Je regrette, » dis-je.
« Bon, mais c'est bizarre, non ? »
fit-il d'un ton plein de sous-entendu.
« Je sais que vous vous baladez souvent dans ces collines, votre gamin, votre chien et vous. J'aurais pensé que vous aviez remarqué quelque chose. »
Le ton de sa voix était curieusement sarcastique.
« Si vous les aviez vus, vous auriez su qu'ils étaient à moi, que ce n'étaient pas des bêtes errantes que vous n'aviez pas le droit de prendre. »
Il continuait à me dévisager. Je haussai les épaules en m'efforçant de garder mon calme. Mais de nouveaux badauds et vendeurs avaient cessé leurs activités pour écouter notre échange. Le regard de Bellor balaya soudain la foule, puis revint sur moi.
« Alors, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu mes cochons? Vous n'en avez pas trouvé un coincé quelque part, ou blessé, ou mort, et vous l'auriez donné à manger à votre chien ?»
À mon tour, je jetai un coup d'œil alentour. Heur était rouge pivoine, et Gina était manifestement mal à l'aise. La colère me prit. Cet homme avait l'audace de m'accuser de vol, même si c'était sous forme de questions obliques. Je réussis néanmoins à contenir ma fureur et d'une voix basse et rauque mais courtoise, je répondis « Je n'ai pas vu vos cochons, Bellor. »
« Vous en êtes sûr ?»
Il s'approcha encore d'un pas, prenant ma politesse pour de la passivité.
« Parce que je trouve ça étrange, moi, trois porcelets qui disparaissent d'un coup. Un loup en aurait tué un. » Ou bien la truie pourrait en avoir égaré un, mais pas trois. Vous ne les avez pas vus ?
Appuyé jusque-là sur la ridelle de la carriole, je me redressai de toute ma taille et me campai solidement sur mes pieds. Malgré mes efforts pour me maîtriser, je sentais les muscles de ma poitrine et de mon cou se tendre sous l'effet de la colère. Autrefois, longtemps auparavant, j'avais été roué de coups au point de me trouver aux portes de la mort. Ilga, semble-t-il, deux réactions possibles à cette expérience. On peut en sortir hardi, incapable, pour le restant de ses jours, d'offrir la moindre résistance physique. Pendant quelque temps, j'avais connu cette peur abjecte, mais la vie m'avait forcé à m'en débarrasser. Et j'avais alors appris une autre attitude. Celui qui fait preuve le premier d'une violence efficace est celui qui a le plus de chances de remporter la partie. À la longue, j'étais devenu cet homme-là.
« Votre question commence à m'agacer, »
dit Jabellor d'une voix grondante. Au milieu de l'animation du marché, un cercle de badauds nous observait en silence. Non seulement Gina et son client se taisaient toujours, mais à présent le fromager d'en face nous regardait aussi, et un mitron porteur d'un plateau de pâtisserie fraîche s'était arrêté pour nous contempler, bouche bée. Heure ne bougeait ni pied ni patte, les yeux écarquillés, blême, mais les pommettes cramoisies d'indignation. Cependant, le plus frappant fut le changement d'expression de Bellor. Il n'aurait pas eu l'air plus apeuré si un ours s'était soudain dressé devant lui, les crocs dénudés. Il recula et détourna le regard.
« D'accord, d'accord, si vous ne les avez pas vus, alors... »
Je lui coupai la parole.
« Je ne les ai pas vus !»
dis-je d'un ton sans réplique. Les bruits du marché ne formaient plus qu'un bourdonnement lointain. Je ne voyais plus que Bellor. Je fis un pas vers lui.
«
Il recula encore, puis se glissa derrière son bœuf.
« Je m'en doutais, bien sûr. Vous me les auriez renvoyés, j'en suis sûr. Mais je voulais vous mettre au courant, c'est quand même bizarre, non, trois porcelets qui disparaissent comme ça. Je voulais vous prévenir au cas où vous perdriez des volailles. »
Jusque-là conciliant, il prit un ton de conspirateur.
« Possible qu'on ait des vifards dans nos collines et qu'ils me volent mes bêtes à leur façon. Ils n'auraient même pas à les chasser. Il leur suffirait d'ensorceler ma truie et ses petits et de s'en aller tout simplement avec eux. Tout le monde sait qu'ils savent faire ça, si ça se trouve. »
Ma colère se changea en une fureur que je m'efforçais de détourner en reprenant la parole. Je m'exprimais à mi-voix, en détachant sèchement chaque mot. « Si ça se trouve, vos porcelets sont tombés dans un cours d'eau et le courant les a emportés ou les a séparés de leur mère. Il y a des renards, des chats sauvages et des gloutons dans ces collines. Si vous ne voulez pas avoir d'inquiétude pour vos bêtes, surveillez-les mieux.
« Moi, j'ai un veau qui a disparu ce printemps !»
intervint soudain le fromager.
« La vache s'est égarée alors qu'elle était grosse et elle est revenue 2 jours plus tard, aussi vite qu'une barrique. »
Il secoua la tête.
« Je n'ai pas vu le plus petit signe du veau. « Mais j'ai découvert une fosse à feu éteinte. »« Des vifards !»
dit le mitron d'un air entendu.
« On en a attrapé une à bec de hardin l'autre jour, mais elle s'est échappée. Allez savoir où elle est maintenant, et où elle était. »
Le soupçon faisait briller de joie ses yeux.
« Eh bien, la voilà, notre explication !»
s'exclama Bellor. Il me lança un regard triomphant et se détourna vivement devant mon expression.
« C'est bien ça !» Tom Blaireau, et je ne cherchais qu'à vous avertir en bon voisin. Surveillez vos poulets de près. »
Il hocha la tête d'un air avisé, imité par le fromager.
« Mon cousin y était, à bec de hardin. Il a vu cette putain au vif se couvrir de plumes comme ça et s'envoler. Les cordes qui la retenaient sont tombées d'un coup et elle a disparu. »
Je n'essayais même pas de savoir qui avait parlé. L'animation et le bruit habituel du marché avaient repris autour de nous. Mais désormais les bavardages portaient sur le vif et avaient pris une tournure joyeusement haineuse. Je me sentais isolé au milieu de la foule, et le soleil tapait sur le sommet de mon crâne comme sur les malheureux porcelets de Bellor dans leur carriole. Ma fureur s'était muée en une sorte de tremblement intérieur. L'envie de tuer Bellor m'avait quitté comme une poussée de fièvre brusquement retombée. Je vis Heure s'essuyer le front. Gina posa la main sur son épaule et lui glissa quelques mots à l'oreille. Il secoua la tête, les lèvres livides, puis il me regarda et me fit un sourire hésitant. C'était fini. Mais les commérages se poursuivaient autour de moi. Le marché tout entier caquetait d'une seule voix, uni par la perspective d'un ennemi commun. J'en avais le cœur au bord des lèvres, et je me sentais petit et lâche de ne pas crier à tous que leur attitude était injuste. Mais je me contentais de prendre Trèfle par la bride. Occupe-toi de notre étal, Heure. Je vais faire boire la ponette. Le jeune garçon acquiesça de la tête d'un air grave, et je sus qu'il me regardait alors que j'emmenais Trèfle. Je pris mon temps, et à mon retour, Bellor m'adressa force sourire et salut. C'est à peine si je pus lui répondre par un hochement de tête. Et je me réjouis de voir un boucher acheter le lot de porcelets à la condition que Bellor le livre à sa boutique, puis pousser un soupir de soulagement quand le bœuf est raflé par son harnais et les porcelets misérables s'éloignèrent enfin. J'étais tellement raide de tension contenue que le dos me faisait mal.
« Sympathique bonhomme,
fit Gina à mi-voix. Heure éclata de rire, et je ne pus retenir un sourire lugubre. Plus tard, nous partageâmes nos œufs durs, notre pain et notre poisson en saumure avec notre compagne. De son côté, elle avait un sac de pommes séchées et une saucisse fumée. Nous fîmes un repas du tout, et alors que je riais d'une saillie de Heure, Gina me fit rougir en déclarant soudain « Vous avez l'air d'une bête féroce quand vous êtes en colère, Tom, et quand vous serrez les poings, je n'ai pas envie d'en savoir davantage sur vous. Pourtant, lorsque vous souriez ou éclatez de rire, vos yeux démentent ces apparences. » Heure s'esbaudit sous cap devant ma gêne, et le reste de la journée s'écoula dans une atmosphère de camaraderie où ne manquèrent pas les piques amicales. À la fin du jour, Gina avait fait de bonnes affaires, et sa réserve d'amulettes avait considérablement baissé. « Je vais bientôt devoir retourner à Castelserre pour en fabriquer de nouvelles. J'aime mieux cela que la vente, même si j'apprécie de voyager et de rencontrer de nouvelles têtes, » dit-elle en remballant les articles restants. Heure et moi avions échangé la plupart de nos marchandises contre des objets utiles, chez nous, mais nous n'avions guère gagné d'espèces pour son droit d'apprentissage. Il s'efforça de dissimuler sa déception, mais je vis l'inquiétude assombrir son regard. Et si nous n'avions même pas assez pour le charpentier de marine. De quel métier devrait-il se contenter? Cette question tournait aussi sans cesse dans mon esprit. Cependant, aucun de nous ne la posa à voix haute. Nous couchâmes dans notre carriole pour économiser le prix d'une chambre d'auberge et nous reprîmes le lendemain le chemin de notre chaumière. Gina vint nous dire au revoir et Heure lui rappela son offre d'hospitalité. Elle lui assura qu'elle n'oublierait pas, mais elle me regarda ce faisant comme si elle se demandait jusqu'à quel point elle serait la bienvenue. Je ne pus que hocher la tête en souriant et renchérir sur le souhait de Heure de la revoir bientôt. Nous eûmes beau temps pour le retour. Des nuages élevés et une brise légère empêchaient la journée d'été de devenir torride. Nous grignotâmes le gâteau de miel que Heure avait obtenu en échange d'un de ses poulets et nous bavardâmes de tout et de rien. Du marché qui avait pris de l'extension depuis notre première visite, de la ville qui avait grandi, de la route plus fréquentée que l'année précédente. Mais nous n'évoquâmes pas Bellor. Nous passâmes la bifurcation dont l'un des embranchements, envahi d'herbe, nous aurait mené à Forge. Heure me demanda si je pensais que le village revivrait un jour. Et je répondis que j'espérais que non. Mais que tôt ou tard, le minerai de fer attirerait des gens à la mémoire courte. De là, nous en vînmes au sort qui avait frappé Forge et aux épreuves qu'avait imposées la guerre des pirates rouges. Je racontais tout ce qui s'était produit à cette époque, comme si je l'avais appris par ouï-dire, non parce que je prenais plaisir à parler de ce temps-là, mais parce que ces événements faisaient partie de l'histoire et que Heure devait les connaître, que chaque habitant des six duchés devait les connaître. Encore une fois, je me promis d'en rédiger un compte-rendu, et puis je songeais à mes nombreuses et vaillantes tentatives dans ce sens-là, aux manuscrits entassés qui roulaient sur les étagères au-dessus de mon bureau, et je m'interrogeais. En achèverais-je jamais un seul? Une question inattendue de Heure me tira brutalement de mes réflexions. « Suis-je le bâtard d'un pirate rouge, Tom ?» Je restai la bouche entrouverte, interdit. Je voyais renouveler dans les yeux vérons du jeune garçon toutes les vieilles souffrances que m'avait causé ce terme. Sa mère l'avait baptisé « malheur », et Astéry l'avait trouvé subsistant sur un tas d'ordures, orphelin, dont nul ne voulait. Je n'en savais guère plus sur lui, et je me contraignis à la franchise. Je l'ignore, Heure. Il est possible en effet que tu sois l'enfant d'un pirate. J'avais employé l'expression la plus charitable. Il continuait à marcher d'un pas régulier, le regard droit devant lui. D'après Astéry, c'est le cas. J'ai l'âge requis, et c'est peut-être pourquoi nul à part toi n'a accepté de m'adopter. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir qui je suis. « Ah !» fis-je, après un silence pesant. Il hocha vigoureusement la tête et reprit d'une voix tendue. « Quand je lui ai dit que je devais tout te révéler sur elle, Astéry a répondu que j'avais un cœur de forgisé comme mon violeur de père. » En cet instant, j'aurais voulu qu'il fût plus petit afin de pouvoir le prendre dans mes bras et le serrer contre moi. Mais je passai simplement mon bras sur ses épaules et l'obligeait à s'arrêter. La ponette poursuivit son chemin. Je ne forçais pas Heure à me regarder dans les yeux, et je tâchais de ne pas prendre un ton trop solennel. « Je vais te faire un présent, fils. C'est un savoir que j'ai mis 20 ans à acquérir. Aussi, ne le mésestime pas du fait que tu l'apprends alors que tu es encore jeune. » Je pris mon souffle. « Peu importe qui est ton père. Tes parents ont donné le jour à un enfant, mais c'est à toi d'en faire l'homme que tu deviendras. » Je soutins un instant son regard, puis détournai les yeux. « Allons, rentrons à la maison. » Nous reprîmes notre route, mon bras autour de son cou, jusqu'au moment où il me donna une tape amicale sur l'épaule. Je le lâchai alors et le laissai marcher à son rythme et débrouiller seul ses pensées. Je ne pouvais rien faire d'autre pour lui. Mes propres réflexions sur Astérie n'avaient rien d'amène. La nuit nous surprit avant notre arrivée à la chaumière, mais la lune brillait dans le ciel et nous connaissions tous deux le chemin. La vieille ponette avançait placidement avec quelques écarts sur la piste et le bruit de ses sabots mêlés au grincement de la carriole formait une musique étrange. Une brève averse d'été tomba, humectant la poussière et rafraîchissant l'atmosphère. Non loin de notre destination, Œil de Nuit vint à notre rencontre d'un pas nonchalant, comme s'il se trouvait là par hasard. Nous cheminâmes dans une ambiance amicale, le jeune garçon en silence, le loup et moi dans la communication aisée du vif. Nous absorbâmes nos expériences réciproques de la journée comme on prend une inspiration. Mais Œil de Nuit ne comprit pas mon inquiétude quant à l'avenir de Heure.
« Il sait chasser et pêcher. Que lui faut-il savoir de plus ? Pourquoi envoyer l'un de nous apprendre les us d'une autre meute ? Sans sa force, nous sommes diminués. Nous ne rajeunissons pas, toi et moi. »
Mon frère, c'est peut-être là le principal motif pour lequel il lui faut partir. Il doit commencer à tracer sa route dans le monde pour que, quand le temps viendra pour lui de prendre femme, il ait les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
Et toi et moi, nous ne l'aiderons pas à pourvoir à leurs besoins ? Ne surveillerons-nous pas les petits pendant qu'il chassera ? Ou ne rapporterons-nous pas nos proies pour les partager avec lui ? Nous ne sommes pas de la même meute, lui et nous.
C'est ainsi que ça se passe dans les meutes humaines. C'était une réponse que je lui avais fournie bien des fois au cours de nos années de vie commune, et je savais comment il l'interprétait. Il était en présence d'une coutume humaine, illogique, et il était vain de chercher à la comprendre.
Et nous, alors, qu'allons-nous devenir après son départ ?
Je te l'ai dit. Nous allons peut-être reprendre la route.
Ah oui, abandonner une tanière confortable et une réserve de nourriture assurée. Voilà qui est aussi judicieux que nous séparer du petit.
Je ne répondis pas à sa dernière pensée, car il avait raison. Peut-être le fourmillement qu'Imbre avait réveillé dans mes jambes n'était-il rien de plus que l'ultime sursaut de ma jeunesse. Peut-être aurais-je dû acheter l'amulette destinée à trouver femme que vendait Gina. De temps à autre, j'avais envisagé de chercher une épouse, mais cela me semblait un moyen trop superficiel de prendre une compagne. Certains, je le savais, n'avaient d'autre but que de découvrir une femme ou un homme partageant leur but et dépourvu d'habitudes trop agaçantes, et ces associations se muaient souvent en rapports amoureux. Mais j'avais fait l'expérience d'une relation non seulement fondée sur une connaissance mutuelle datant de plusieurs années, mais baignée de l'ivresse de l'amour véritable, et je ne pensais pas être capable d'accepter moins. En outre, il ne serait pas juste de demander à une autre femme de vivre toujours dans l'ombre de Molly. Au cours de toutes les années où Astérie s'était donnée à moi par intermittence, l'idée ne m'avait jamais effleuré de l'épouser. À cette occasion, je m'interrogeais. Astérie avait-elle jamais espéré une proposition de mariage de ma part ? Puis, j'eus un sourire lugubre. Non. Elle aurait trouvé l'offre déconcertante, voire comique, mais sans plus. Nous achevâmes notre trajet dans une pénombre plus profonde, car des frondaisons se rejoignaient au-dessus de la piste étroite qui menait à notre chaumière. Des gouttes de pluie tombaient des feuilles, tandis que notre carriole avançait en cahotant.
« Il aurait fallu prendre une lanterne ?»
fit Heure, et j'acquiesçais d'un grognement.
Notre logis formait une masse sombre dans le creux enténébré où nous étions établis. Je pénétrais dans la maison, attisais, puis alimentais le feu et rangeais le produit de nos trocs. Heure, une lampe à la main, s'occupa de la ponette, et Œil de Nuit se coucha en soupirant de soulagement sur la pierre d'âtre, aussi près des flammes que possible, sans risquer de se roussir le poil. Je mis de l'eau à chauffer, et ajoutai à la maigre fortune de Heure les quelques pièces que nous avions gagnées. Malgré que j'en eusse, je dus bien reconnaître que cela ne suffirait pas. Nous ne pouvions pas non plus continuer à travailler ainsi, en nous rendant régulièrement au marché, sauf à négliger nos propres poulets et notre potager. Néanmoins, si l'un de nous trouvait une embauche, nous pourrions avoir économisé assez d'argent au bout d'un an ou deux. Il y a longtemps que j'aurais dû commencer à épargner, fis-je d'un ton lugubre, alors que Heure entrait. Il rangea la lampe sur son étagère, avant de se laisser tomber lourdement dans le fauteuil libre. D'un signe de tête, je lui indiquai la bouilloire et il se servit aussitôt une tasse de tisane. Les pièces empilées sur la table formaient une pitoyable murette entre nous.
« Trop tard pour les regrets, » dit-il en levant sa tasse. « Il faut œuvrer à partir de ce que nous avons aujourd'hui. »
« Tout à fait d'accord. Crois-tu qu'Œil de Nuit et toi arriveriez à vous débrouiller ici le reste de l'été pendant que je louerai mes services au champ ?» Il me regarda dans les yeux.
« Pourquoi est-ce toi qui irais travailler ? C'est pour mon apprentissage que cet argent est nécessaire, pas pour la chaumière ?»
J'éprouvais alors un singulier déplacement de perception. La réponse traditionnelle, « parce que je suis plus grand, plus fort, et que je peux donc gagner davantage que toi », n'était plus vraie. Les épaules de Heure étaient aussi larges que les miennes, et dans n'importe quelle épreuve d'endurance, son jeune dos résisterait sans doute mieux que ma vieille échine. Il eut un sourire compatissant en me voyant prendre conscience de ce qu'il savait déjà. « Peut-être parce que c'est un don que j'apprécierais de te faire, » fis-je à mi-voix. Et il hocha la tête. La véritable signification de ses paroles ne lui avait pas échappé.
« Je ne pourrai jamais te rembourser tout ce que tu m'as déjà donné, y compris la capacité de régler moi-même cette affaire. »
Sur ces mots, nous allâmes nous coucher. Et c'est en souriant que je fermais les yeux. Il y a une vanité monstrueuse dans la fierté que nous tirons de nos enfants, me dis-je. J'avais mené ma petite existence en compagnie de Heure sans me préoccuper vraiment de l'image de l'adulte que je lui transmettais. Et voici qu'un soir, un jeune homme m'annonçait, les yeux dans les yeux, qu'il était capable de voler de ses propres ailes. Et je me sentais alors envahi de la chaleur bienfaisante du devoir accompli. Ce gamin s'est élevé tout seul, me répétais-je, mais je m'endormis tout de même, le sourire aux lèvres. Peut-être cette humeur détendue me laissa-t-elle l'esprit plus ouvert que d'habitude, car je fis un rêve d'art cette nuit-là. Ces songes qui me venaient de temps en temps excitaient ma dépendance à la magie plus qu'ils ne l'apaisaient, car, incontrôlable, ils ne m'offraient que de brefs aperçus sur d'autres personnes sans la satisfaction d'un contact complet. Or, le rêve que je fis alors avait un caractère plus alléchant que d'ordinaire, car je sentis que je partageais l'esprit d'un seul individu au lieu de capter les bribes de pensées d'une foule. Ce qui apparut à la surface de mes pensées endormies tenait autant du souvenir que de la vision. Je me retrouvais tel un fantôme dans la grande salle de Castelserre, pleine d'élégants et d'élégantes, vêtus de leurs plus beaux atours. Des notes de musique parvenaient jusqu'à moi, et j'apercevais les danseurs, mais je me déplaçais lentement parmi des gens qui conversaient entre eux. Certains se tournaient vers moi pour me saluer au passage, et je marmonnais les réponses attendues, mais mon regard ne s'attardait jamais sur leur visage. Je n'avais aucune envie de me trouver là, où rien ne m'intéressait. L'espace d'un instant, une chevelure d'un bronze luisant, véritable cascade, retint mon attention. La jeune femme me tournait le dos. À geste nerveux, elle rajustait sans cesse son col d'une main fine aux doigts ornés de bagues. Elle pivota soudain comme si elle avait perçu mon regard et rosit en me faisant une profonde révérence. Je m'inclinai, prononçai quelques mots de salutation et repris mon chemin à travers la presse. Je la sentis qui me suivait des yeux et cela m'agaça. Mon agacement s'accrut quand je vis Imbre, grand et vêtu avec raffinement, debout sur l'estrade, en retrait du fauteuil de la reine et légèrement décalé. Lui aussi avait remarqué ma présence. Il se pencha pour murmurer quelques mots à l'oreille de Kétriken, dont le regard se porta sans hésiter sur moi. D'un petit geste de la main, elle me fit signe de les rejoindre. Mon cœur se serra. Disposerai-je un jour de temps rien que pour moi, que je pourrais occuper selon mon bon plaisir? Abattu, je me dirigeai vers l'estrade à pas lents. Soudain, comme il arrive souvent dans les rêves, le décor changea. J'étais mollement étendu sur une couverture devant une cheminée. Je m'ennuyais. Quelle injustice! En bas, il dansait, il mangeait, tandis que moi, ici, une onde agita le songe. Non, non. Je ne m'ennuyais pas. J'étais simplement désœuvré pour le moment. Pour passer le temps, je sortis mes griffes et les examinai. Sous l'une d'elles, un peu de duvet d'oiseau était resté coincé. Je m'en débarrassai, puis me léchai consciencieusement toute la patte avant de me rassoupir devant le feu.
Qu'est-ce que c'était que ça?
La question ensommeillée d'œil de nuit était teintée d'amusement, mais il m'aurait fallu faire un trop grand effort pour lui répondre. En grommelant, je me retournai dans mon lit et me rendormis. Le matin venu, je m'interrogeai brièvement sur mon rêve avant de le chasser de mon esprit, jugeant qu'il ne s'agissait que d'un mélange de mon art vagabond et des souvenirs de mon enfance à Castelserre, le tout associé à mes ambitions pour Heure. Alors que j'accomplissais les corvées habituelles du début de journée, je remarquai la réserve de bois en baisse. Il fallait la reconstituer, non seulement pour la cuisson des repas et le chauffage des fraîches nuits d'été, mais aussi en prévision des rudes frimas de l'hiver. Je rentrai prendre mon petit déjeuner en me promettant de m'atteler à cette tâche le jour même. Impeccablement préparé, le sac à dos de Heure était appuyé au mur près de la porte. Le jeune homme paraissait toiletté et peigné de frais. Il m'adressa un sourire ravi en s'efforçant d'en effacer toute exultation alors qu'il remplissait nos bols de gruau. Je m'installai à ma place à table et il prit la sienne en face. « Aujourd'hui ?» demandai-je en tâchant de ne pas laisser percer ma répugnance à le voir sur le départ. « Difficile de partir plus tôt ?» répondit-il d'un ton amusé. « Au marché, j'ai entendu dire que les foins étaient mûrs à Cormen. » Et ce n'est qu'à 2 jours d'ici. » Je hochai lentement la tête. Il avait raison, mais plus que tout, il était impatient. « Laisse-le aller, » me dis-je, en ravalant mes objections. « Oui, inutile de perdre davantage de temps, » déclarai-je non sans mal. Et il prit ma réponse comme une approbation et même un encouragement. Tout en mangeant, il réfléchit à voix haute. Après la fenaison de Cormen, il pourrait pousser jusqu'à Deviden pour voir s'il trouverait de l'embauche.
Deviden ?
À 3 jours de marche après Cormen. Gina nous en parlait, tu t'en souviens ? Elle a dit que les champs d'orge ressemblent à un océan quand le vent fait onduler les épis. J'ai pensé tenter ma chance là-bas.
Ça paraît s'annoncer bien, en tout cas, convins-je. Et tu reviendrais à la maison ensuite ?
Il acquiesça lentement.
Oui, sauf si j'apprends qu'on embauche ailleurs.
Naturellement. Sauf si tu apprends qu'on embauche ailleurs. Quelques courtes heures plus tard, Heure était partie. Je l'avais forcé à emporter des vivres en supplément et quelques pièces d'argent en cas d'extrême nécessité, et mes conseils de prudence l'avaient exaspéré. Il m'avait promis de dormir le long des routes et non dans les auberges. Les patrouilles de la reine Kétriken décourageaient les bandits de grand chemin, et les simples voleurs dédaigneraient une aussi piètre proie. Bref, il m'avait assuré que tout irait bien. Sur l'insistance d'Œil de Nuit, je lui avais demandé s'il ne voulait pas emmener le loup. Il avait eu un sourire indulgent et s'était arrêté sur le seuil pour gratter les oreilles d'Œil de Nuit. « Le voyage risquerait d'être trop dur pour sa vieille carcasse », avait-il répondu avec douceur. « Mieux vaut qu'il reste pour que vous puissiez veiller l'un sur l'autre pendant mon absence. » Tandis qu'avec le loup, je regardais notre jeune compagnon descendre le sentier qui conduisait à la grande route. Je me demandais si, à son âge, je faisais preuve d'une assurance aussi insupportable. Cependant, la douleur que je ressentais dans mon cœur se mêlait d'une certaine fierté. J'éprouvais une curieuse difficulté à remplir le reste de la journée. Le travail ne manquait pas, mais je ne parvenais pas à m'y mettre.
À plusieurs reprises, je pris soudain conscience que j'étais demeuré immobile, les yeux dans le vide, pendant quelques minutes. Je me rendis deux fois sur les falaises, sans autre but que de contempler l'océan, et une fois au bout de notre chemin pour observer la route, à gauche et à droite. Je ne distinguais pas la plus petite poussière en suspension. Autant que je pusse m'en rendre compte, il n'y avait de mouvement ni de bruit nulle part. Le loup me suivait partout d'un air accablé. Je me lançai dans une demi-douzaine de tâches dont je n'achevais aucune. Je me surpris à tendre l'oreille, impatient, sans savoir ce que j'attendais. Enfin, alors que j'étais en train de fendre du bois et de l'empiler pour la réserve, je m'interrompis et, en me gardant bien de réfléchir, j'enfonçai le fer de ma hache dans le billot. Puis, je ramassai ma chemise, l'enfilai malgré la sueur dont j'étais couvert et pris la direction des falaises. À une nuit surgit devant moi.
« Que fais-tu ?»
Une petite pause.
« C'est faux. Tu te rends aux falaises pour artiser. »
J'essuyai mes paumes sur mes chausses. Mes pensées restaient informes. J'y allais seulement pour profiter de la brise.
« Une fois là-bas, tu vas essayer d'artiser. Tu le sais bien. Je sens ta faim autant que toi. Mon frère, par pitié, je t'en prie, non !»
Un gémissement plaintif accompagnait ses pensées. Jamais je ne l'avais vu si résolu à me dissuader, et cela me déconcerta. Alors je n'irai pas, si ça t'inquiète tant. J'arrachai ma hache au billot et me remis à l'ouvrage. Au bout d'un moment, je m'aperçus que je frappais les bûches avec une violence excessive. J'achevais de fendre le tas de bois, puis m'attaquai à la tâche fastidieuse qui consistait à empiler les recoupes de façon à ce qu'elles sèchent tout en laissant la pluie s'écouler. Quand j'eus terminé, je repris ma chemise et, sans réfléchir, dirigeai mes pas vers les falaises. Le loup me barra aussitôt le passage.
« Ne fais pas ça, mon frère !»
Je t'ai déjà donné ma parole. Et je me détournai en refoulant au fond de moi la rage impuissante qui me taraudait. Je désherbais le potager, je tirais de l'eau du ruisseau pour remplir la barrique de la cuisine, je creusais une nouvelle fosse, y déplaçais les latrines et comblais l'ancienne avec de la bonne terre. Bref, je consumais ma frustration par le travail, comme un incendie déclenché par la foudre calcine une prairie en été. Mon dos et mes bras criaient grâce, non seulement par fatigue, mais aussi à cause de mes anciennes blessures. Pourtant, je n'osais pas rester inactif. La soif de l'art me vrillait. Impossible à oublier. Au soir tombant, le loup et moi allâmes pêcher notre dîner. Cuisiner pour une seule personne me paraissait ridicule, mais je fis l'effort de préparer un repas convenable et de le manger. Après avoir débarrassé la table, je m'assis dans mon fauteuil. Les longues heures de la soirée s'étendaient devant moi. Je sortis du vélin et des encres sans parvenir à me décider à écrire quoi que ce fût, tant mes pensées étaient confuses. Pour finir, je pris mon matériel de couture et me mis à rapiécer, recoudre ou ravauder tous les vêtements qui en avaient besoin. Enfin, quand mon ouvrage commença de se brouiller devant mes yeux, j'allais me coucher. À plat dos, un bras sur les yeux, je m'efforçais de ne pas prêter attention aux hameçons de l'art qui me tiraillaient, plantés dans mon âme. Œil de nuit se laissa tomber près du lit avec un soupir et je laissai descendre mon bras libre pour poser ma main sur sa tête. Je me demandais à quel moment nous avions franchi la frontière entre la solitude et le sentiment d'abandon.
Ce n'est pas le sentiment d'abandon qui te travaille.
Je ne vis pas que répondre à cela. Je passais une nuit difficile et je me forçais à me lever peu après l'aube. Les jours suivants, j'occupais mes matinées à récolter de l'aulne pour le fumoir et mes après-midi à prendre du poisson à fumer. Le loup se gorgea des entrailles tout son soûl, ce qui ne l'empêcha pas de surveiller d'un œil glouton les filets rouges que je salais et accrochais au-dessus d'un feu doux. J'ajoutais de l'aulne vert pour épaissir la fumée et fermais la porte que j'avais rendue le plus étanche possible. À la fin d'un de ces après-midi, à la barrique d'eau, alors que je nettoyais mes mains du mucus, des écailles et du sel qui les maculaient, Œil de Nuit tourna soudain la tête vers le sentier.
« Quelqu'un vient !»«
Heure ?» L'espoir jaillit en moi.
« Non !»
L'acuité de ma déception m'étonna moi-même, et j'en perçus un écho chez le loup.
Nous observions tous deux le chemin ombragé quand Jean apparut. Elle s'arrêta un instant, inquiétée peut-être par l'intensité de notre regard, puis leva la main en signe de salut.
« Oui, Tom Blaireau, c'est moi. Je viens répondre à votre proposition d'hébergement. »
« Une amie de Heure, » expliquai-je à Œil de Nuit. Il n'en resta pas moins en retrait et garda un œil méfiant sur elle, tandis que je me portais à sa rencontre. « Bienvenue. Je ne pensais pas vous revoir si tôt, » dis-je avant de me rendre compte de la maladresse de ma formule. « Le plaisir qu'on n'attend pas est toujours le plus plaisant, » ajoutai-je pour me rattraper, et je m'aperçus alors que ma phrase, trop galamment tournée, n'était pas plus adaptée à la situation. Avais-je donc complètement oublié comment m'adresser aux uns et aux autres? Mais le sourire de Gina me rasséréna.
« De si jolis mots pour brider tant de franchise, voilà qui est bien rare, Tom. Cette eau est-elle fraîche ?»
Et sans attendre de réponse, elle se rendit auprès de la barrique, tout en dénouant le mouchoir qu'elle portait autour du cou. Elle avait la démarche d'une femme habituée à la route, lasse d'avoir cheminé tout le jour, sans pour autant être épuisée par le trajet, et le gros sac sur son dos semblait faire partie d'elle. Elle humecta son mouchoir et se nettoya le visage et les mains, puis mouilla plus franchement le carré de tissu pour se le passer sur la nuque et la gorge.
« Ah, ça va mieux !» fit-elle avec soulagement.
Elle se retourna vers moi avec un sourire qui fit ressortir des pattes d'oie au coin de ses yeux.
Au bout d'une longue journée de marche, j'envie les gens comme vous qui mènent une vie tranquille et possèdent un logis bien à eux.
Croyez-moi, les gens comme moi se demandent de leur côté si une existence vagabonde ne serait pas plus agréable. Mais entrez donc et mettez-vous à l'aise. J'allais préparer le dîner.
Mille merci.
Elle me suivit vers la chaumière et Œil de Nuit nous accompagna discrètement, de loin. Sans même le regarder, Gina observa.
Ce n'est pas ordinaire, un loup comme chien de garde.
Je mentais souvent en prétendant qu'Œil de Nuit était simplement un chien aux allures de loup, mais je sentis instinctivement que face à Gina, une telle réponse équivaudrait à une insulte, et je ne cherchais pas à la tromper. Je l'ai adopté tout petit. C'est un bon compagnon.
C'est ce que Heur m'a dit. Il m'a aussi appris qu'il n'aime pas que les inconnus le regardent trop fixement, mais qu'il acceptera de s'approcher une fois qu'il se sera fait une opinion de moi. Et moi, comme d'habitude, je raconte l'histoire en commençant par le milieu. J'ai omis de mentionner que j'ai croisé Heur sur la route il y a quelques jours. Il était plein d'entrain, sûr qu'il trouverait du travail et s'en tirerait bien, et je partage sa confiance. Ce garçon a des manières si amicales, si engageantes que je n'imagine pas qu'on lui fasse mauvais accueil. Il m'a répété que je serais la bienvenue chez vous, et naturellement, il a dit la vérité.
Elle entra dans ma chaumière derrière moi. Elle se débarrassa de son sac et l'appuya au mur, puis se redressa et s'étira le dos avec un grognement d'aise.
« Alors, que préparez-vous à manger ? Autant vous résigner tout de suite à me laisser vous aider, car je ne supporte pas de rester inactif dans une cuisine. Du poisson ? Ah, je possède une herbe excellente pour le poisson. Avez-vous une grosse marmite avec un couvercle qui ferme bien ?»
Et avec la simplicité des gens pour qui vivre en société est naturel, elle se chargea de la moitié des préparatifs du repas. Je n'avais pas pris part aux tâches culinaires en même temps qu'une femme depuis l'année que j'avais passée chez ceux du lignage et où restait presque muette en ces occasions. Gina, elle, ne cessait de parler au milieu du bruit des casseroles et des poêles entrechoqués et mon petit logis était plein de son énergie et de ses bavardages. Elle avait le talent rare de pénétrer sur mon territoire et de se servir de mes affaires sans que j'éprouve une impression d'éviction ou de malaise. Mes sentiments d'éteignirent sur Œil de Nuit, qui se risqua bientôt dans la maison et reprit sa surveillance habituelle de la table. Son regard intense ne démonta pas Gina, qui admira plutôt son habileté à saisir au vol les bouts de nourriture qu'elle lui lançait. Le poisson ne tarda pas à mijoter dans une marmite, accompagné des herbes de ma visiteuse. J'allais arracher de jeunes carottes et autres légumes frais dans mon potager, tandis qu'elle faisait revenir d'épaisses tranches de pain dans du sein doux. Le dîner me donna l'impression d'apparaître sur la table sans véritable effort de la part de personne. Gina n'avait pas oublié le loup en préparant le pain, bien qu'il le mangeât probablement par esprit de sociabilité plus que par gourmandise. Le poisson poché était moelleux et savoureux et relevé autant par la conversation de Gina que par ses condiments. Loin de jacasser interminablement, elle narrait des anecdotes qui appelaient des réactions, qu'elle écoutait avec le même intérêt qu'elle portait au repas. Nous débarrassâmes la table sans plus d'effort qu'il ne nous en avait fallu pour la dresser, et, quand je sortis l'eau-de-vie de bord de sable, elle s'exclama d'un ton ravi.
« Ah ! Voilà le dessert parfait pour clore un bon repas !»
Elle alla poser son gobelet près de l'âtre. Notre feu de cuisine était presque éteint, et elle l'alimenta d'une bûche, plus pour éclairer la pièce que pour la chauffer, avant de s'asseoir par terre près du loup. Œil de Nuit ne bougea ni pied ni patte. Elle trempa les lèvres dans l'eau de vie et poussa un soupir satisfait. Puis, elle leva son gobelet en direction de mon étude dont la porte était ouverte.
« Je savais que vous fabriquiez des encres et des teintures, mais à ce que je vois, vous vous en servez vous-même. Seriez-vous scribe ?»
Je haussai les épaules d'un air détaché. « Si l'on veut, » répondis-je. « Je ne fais pas d'enluminure, mais de simples illustrations. En outre, ma calligraphie est tout juste passable. Je tire simplement satisfaction d'acquérir du savoir et de le coucher par écrit afin qu'il soit accessible à tous. » Gina me reprit.
« À tous ceux qui savent lire. »
« C'est exact, » reconnus-je. Elle pencha la tête vers moi et sourit.
« Je ne crois pas que j'approuve cette entreprise. »
Je restai interloqué. Non seulement qu'elle s'oppose à pareille œuvre, mais qu'elle le dise sur un ton aussi affable. Pourquoi donc ?
Il ne faut peut-être pas que le savoir soit disponible à tous. Il faut peut-être le mériter, qu'il soit seulement transmis petit à petit d'un maître à un élève qui s'en est montré digne, plutôt qu'étalé en toutes lettres sur des documents dont le premier venu risque de s'emparer et de prétendre être le propriétaire de la science qu'ils contiennent.
J'avoue nourrir pareilles inquiétudes moi-même, répondis-je en songeant au manuscrit sur l'art qu'Imbre étudiait. Cependant, j'ai connu des cas où un maître mourait prématurément et où tout ce qu'il savait disparaissait avec lui, avant qu'il ait eu le temps de léguer son savoir à son disciple élu. Un seul décès anéantissait les connaissances cumulées de plusieurs générations. Gina se tut un moment.
C'est tragique, reconnut-elle enfin. Car, même si les maîtres d'un art partagent avec d'autres une grande somme de savoir, chacun détient des secrets destinés à ses seuls apprentis.
Prenez votre exemple, dis-je, pressant mon avantage. Vous exercez un métier qui est aussi un art, entretissé de secrets et de talents connus seulement de ceux qui, comme vous, pratiquent la magie des haies. À ce que j'ai pu remarquer, vous n'avez pas d'apprenti. Pourtant, je gage que certains aspects de votre magie n'appartiennent qu'à vous et disparaîtraient si vous mouriez ce soir. » Elle me regarda quelque temps sans réagir, puis avala une nouvelle gorgée d'eau-de-vie.
« Voilà une idée inquiétante au moment de dormir, » répondit-elle d'un air mi-figue mi-raisin. « Mais il y a autre chose, Tom. Je ne connais pas mes lettres. Je ne pourrais pas exposer mon savoir sous cette forme à moins que quelqu'un comme vous ne m'aide. » Et même alors, je serais incapable de savoir si vous avez noté ce que je sais ou ce que vous pensez avoir entendu. C'est la moitié de l'enseignement. S'assurer que l'élève apprend ce qu'on lui dit et non ce qu'il croit avoir compris.
C'était vrai, et j'en convins. Combien de fois avais-je cru comprendre les instructions d'Imbre sur ses concoctions et déclencher un désastre quand je tentais des mélanges de mon cru ? Une onde d'inquiétude me traversa à la pensée d'Imbre qui s'efforçait d'apprendre l'art au prince de voix à partir de documents. Allait-il lui enseigner ce qu'un maître d'art oublié avait couché sur le papier, ou bien seulement ce que lui-même en comprenait? Je chassais ce souci de mon esprit. Mon devoir n'était pas en jeu dans cette affaire. J'avais mis mon vieux mentor en garde. Je ne pouvais faire mieux. La conversation languit bientôt, et Gina finit par aller se coucher dans le lit dehors. Œil de Nuit et moi sortîmes fermer le poulailler pour la nuit et accomplir notre ronde du soir dans notre petite propriété. Tout était calme et paisible dans la douce nuit d'été. Je lançai un regard d'envie vers les falaises. Les vagues devaient être ourlées d'argent ce soir. Mais je me bridai fermement, et je perçus le soulagement d'Œil de Nuit. Nous ajoutâmes de nouvelles branches d'aulne vert au feu bas du fumoir. « Il est l'heure de dormir, » dis-je. « Par de pareilles nuits,
nous allions souvent chasser ensemble.
En effet, ce serait une nuit parfaite pour la chasse, avec cette lune. Le gibier doit être énervé et facile à repérer. Néanmoins, il me suivit quand je repris le chemin de la chaumière. Malgré la netteté de nos souvenirs, ni lui ni moi n'étions plus les jeunes loups d'autrefois. Nous avions le ventre plein, une douce chaleur émanait de l'âtre, et le repos apaiserait peut-être chez Œil de Nuit la douleur lancinante de sa croupe. Nous devrions nous contenter de rêver de chasse pour cette nuit. Quand je me réveillais au matin, j'entendis Gina verser de l'eau à la louche dans la bouilloire qu'elle avait déjà mise à chauffer au-dessus du feu lorsque j'entrais dans la cuisine. Elle me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule tout en coupant des tranches de pain. « J'espère que vous ne me jugez pas trop sans gêne ?» lança-t-elle.
« Pas du tout, » répondis-je, bien qu'en vérité, je me sentisse un peu dépassé.
Le temps que je m'occupe de ma basse-cour et récupère les œufs du jour, la table était mise, garnie d'un petit déjeuner fumant. Une fois le repas achevé, Gina m'aida à tout ranger. Elle me remercia de mon hospitalité, puis ajouta « Avant que je m'en aille, peut-être pourrions-nous faire un peu de troc ? Que diriez-vous d'une amulette ou deux de ma réserve en échange d'un peu de vos encres jaunes et bleues ?» Je m'aperçus que j'étais heureux de retarder son départ. Non seulement parce qu'elle était d'agréable compagnie, mais aussi parce que la magie des haies m'avait toujours intrigué. Je tenais là peut-être l'occasion d'étudier de près les instruments de ce métier. Nous nous rendîmes tout d'abord dans mon atelier où je préparais sur l'établi quelques pots d'encre jaune et bleue, auxquels j'ajoutais une petite quantité de rouge. Tandis que je fermais hermétiquement les récipients à l'aide de bouchons en bois et de cire, Gina m'expliqua que l'usage de couleurs sur certains porte-bonheurs paraissait renforcer leur efficacité, mais qu'il s'agissait d'un domaine qu'elle commençait tout juste à expérimenter. Je hochai la tête, mais, quelque envie que j'en eusse, je me retins de lui demander davantage de détails. Cela me paraissait inconvenant. Une fois revenue à la maison, elle posa les encres sur la table et ouvrit son propre paquetage, puis disposa bon nombre de ses amulettes en sachets devant moi.
« Qu'allez-vous choisir, Tam ?» me demanda-t-elle en souriant. « Vous avez ici de quoi obtenir un potager toujours fertile, de la chance à la chasse, des enfants solides, mais celui-ci, vous n'en avez guère l'usage, je vais le ranger. Ah, en voici un qui vous sera peut-être utile. »
D'un geste vif, elle tira une amulette de son sachet. Au même instant, Œil de Nuit émit un grondement, les poils hérissés, et se dirigea d'une démarche prudente vers la porte, qu'il ouvrit du bout du museau. Moi-même, je reculai involontairement devant l'objet révélé. Des baguettes de bois marquées de symboles d'un noir inquiétant étaient liées entre elles selon des angles qui devaient apparemment tout au hasard, dangereusement parsemées de perles sinistres. Quelques touffes de poils torturés et tordus étaient fixées à l'ensemble par de la poix. J'éprouvais devant cet objet un sentiment d'affront et d'angoisse à la fois, et j'aurais pris mes jambes à mon cou si j'avais eu le courage d'en détourner les yeux. Je heurtai soudain le mur derrière moi et je m'y collai. Je savais qu'il existait un moyen plus efficace de m'échapper, mais j'étais incapable de me rappeler lequel.
« Je vous demande pardon. »
La voix apaisante de Gina me parvenait de très loin. Je battis des paupières et l'objet disparut en sachet. Dehors, le grondement d'Œil de Nuit se mua en un gémissement sifflant, puis cessa. J'avais l'impression d'émerger enfin d'un abîme.
« Pardonnez mon étourderie, » s'excusa Gina en fourrant le sachet au fond de son paquetage. « Cette amulette est conçue pour éloigner les prédateurs des poulaillers et des enclos à moutons. »
Je repris mon souffle. La jeune femme ne croisa pas mon regard. Nous baignions dans une atmosphère d'appréhension comme dans un miasme. J'avais le vif et elle le savait désormais. Qu'allait-elle faire de cette découverte? Se montrerait-elle seulement révoltée, effrayée, ou bien assez épouvantée pour me faire exécuter? J'imaginais Heure trouvant une chaumière réduite en cendres à son retour. Gina leva soudain les yeux vers moi, comme si elle avait perçu mes pensées.
« Un homme est ce qu'il est, il n'y peut rien. »
« En effet, » marmonnai-je, honteux de mon soulagement. Par un effort de volonté, je m'écartai du mur et m'approchai de la table. Sans me regarder,
Gina fouillait dans son paquetage comme s'il ne s'était rien produit.
« Bon, eh bien, tâchons de vous trouver quelque chose de plus adapté. »
Elle fit le tri parmi ses charmes en s'arrêtant parfois pour tâter un sachet afin de s'en rappeler le contenu. Elle choisit un emballage vert et le posa sur la table.
« En voulez-vous un à suspendre près de votre potager pour inciter vos légumes à bien pousser ?»
J'acquiesçai sans un mot, toujours sous le coup de l'effroi. Quelques instants plus tôt, je nourrissais des doutes sur l'efficacité de ces amulettes, mais à présent, je redoutais presque leur pouvoir. Je serrai les dents lorsqu'elle tira l'objet de son petit sac, mais j'eus beau l'examiner de tous mes yeux, je n'éprouvais rien. Je croisai le regard de Gina et j'y lus de la compassion. Son sourire paisible était rassurant.
« Donnez-moi la main pour que j'accorde le charme sur vous. Ensuite, nous sortirons et nous l'ajusterons pour votre potager. Une moitié de son pouvoir s'applique au sol et à ce qui y pousse, l'autre au jardinier. C'est le lien entre l'homme et son bout de terrain qui fait le jardin. Tendez-moi vos mains. »
Elle s'assit à ma table et me présenta les siennes tournées vers le haut. Je pris la chaise en face d'elle, puis, après une petite hésitation, plaçai mes paumes sur les siennes.
« Non, pas comme ça. L'existence et le caractère se révèlent dans les paumes, pas sur le dos des mains. »
Docilement, j'obéis. Au temps de mon apprentissage, Imbre m'avait enseigné à lire dans les mains, non pour dire la bonne aventure à leur propriétaire, mais pour connaître son passé. Les calques laissaient une épée ne ressemblaient pas à ce que produisait le pinceau d'un scribe ou la houe d'un fermier. Gina se pencha sur mes paumes, les étudia attentivement, et je me demandais si elle allait discerner la hache avec laquelle je m'étais battu autrefois ou la rame que j'avais maniée. Mais non. Elle scruta ma main droite, fronça les sourcils, puis passa à la gauche. Quand elle leva les yeux vers moi, son expression n'était que perplexité, et elle avait un sourire triste.
« Vous êtes quelqu'un de singulier, Tom, ça, c'est sûr. Si elle ne se trouvait pas au bout de vos bras, je dirais que ses mains sont celles de deux personnes différentes. La tradition veut que la gauche révèle le bagage qu'on avait à la naissance et la droite ce qu'on en a fait, mais j'ai rarement vu autant de différence chez un même homme. Tenez, dans celle-ci, je vois un enfant au cœur tendre, un jeune homme sensible, et puis votre ligne de vie s'arrête soudain. »
Tout en parlant, elle lâcha ma main droite, posa l'index sur ma paume gauche, et je ressentis un chatouillis quand, de l'ongle, elle suivit la ligne jusque là où ma vie s'éteignait.
Si vous aviez l'âge de Heur, je craindrais d'avoir en face de moi un jeune homme dont la fin serait proche. Mais, puisque vous vous trouvez devant moi en chair et en os, et que votre main droite porte, elle, une belle et longue ligne de vie, c'est à elle que nous allons nous intéresser, d'accord ?
Et délaissant ma main gauche, elle prit la droite entre les siennes.
Pourquoi pas ? Répondis-je, mal à l'aise. Ce n'était pas seulement ses propos qui me troublaient. Au simple contact de ses mains tièdes, j'avais brusquement pris conscience que Gina était une femme, et je réagissais comme l'aurait fait un adolescent. Je m'agitais nerveusement sur ma chaise. Le sourire entendu qui voleta sur les lèvres de la jeune femme acheva de me démonter. Alors, nous avons un jardinier, un maraîcher acharné qui se consacre à la connaissance des plantes et de leurs usages.
J'émis un grognement qui ne m'engageait à rien. Elle avait vu mon potager. Rien ne l'empêchait de spéculer en se fondant sur ce qui y poussait. Elle examina encore ma paume droite en y passant le pouce pour gommer les rides de moindre importance, puis, d'une pression des doigts, elle m'incita à refermer légèrement les miens pour accentuer les lignes de ma paume.
« Droite ou gauche, vos mains ne sont pas faciles à lire, Tom. »
Elle fronça les sourcils et encore une fois compara les deux. « D'après la gauche, on dirait que vous avez connu un grand, un véritable amour durant votre courte existence, un amour qui n'a pris fin qu'avec votre mort. Toutefois, dans la droite, je détecte un amour qui s'en vient et s'en va au cours de vos nombreuses années. »
Ce cœur fidèle est absent depuis quelque temps, mais il doit bientôt revenir auprès de vous. »
Elle planta ses yeux noisettes dans les miens pour voir si elle avait touché juste. Je haussai les épaules.
Heur lui avait-il parlé d'Astérie? Peut-être. Mais la ménestrelle n'était pas ce qu'on pouvait appeler un cœur fidèle. Comme je ne répondais pas, Gina reporta son attention sur mes mains pour les étudier alternativement. Elle fronça légèrement les sourcils, un pli barrant son front.
« Regardez ici. Vous voyez ? Colère et peur, enchaînées l'une à l'autre en un sinistre couple. Un couple qui suit votre ligne de vie et la couvre d'une ombre obscure. »
Je repoussais le trouble que ces paroles suscitaient en moi et me penchais sur ma main.
« C'est sans doute un peu de terre, » fis-je.
Elle eut un petit gloussement amusé, puis secoua la tête. Cependant, elle ne reprit pas son inquiétant examen. Elle posa sa main sur la mienne et me regarda dans les yeux. Je n'ai jamais vu deux paumes aussi différentes chez un seul homme. Je parie que vous vous demandez parfois si vous savez qui vous êtes réellement.
Chacun se pose cette question de temps en temps, j'en suis sûr.
Curieusement, j'éprouvais une grande difficulté à soutenir son regard de myope.
Mais vous avez peut-être de meilleures raisons de vous la poser ?
Bien, fit-elle avec un soupir. Voyons ce que nous pouvons faire. Elle lâcha mes mains. Je les ramenai à moi et les frottai l'une contre l'autre sous la table, comme pour faire disparaître le picotement que son contact y avait provoqué. Elle prit l'amulette, l'observa sous tous les angles, puis dénoua un fil sur lequel elle modifia la place respective des perles, et auquel elle en ajouta une, marron, qu'elle tira de son sac. Elle raccrocha le fil, puis saisit un des pots d'encre jaune que je lui avais remis, y plongea un pinceau fin et, se penchant le plus possible sur son travail, délinéa plusieurs runes noires inscrites sur une des chevilles. Tout en œuvrant ainsi, elle déclara « Quand je reviendrai vous voir, j'espère vous entendre dire que vous n'avez jamais connu de meilleure année pour les plantes qui portent leurs fruits sur leurs rameaux pour que le soleil les mûrisse. »
Elle souffla sur le charme pour le sécher, puis rangea encre et pinceau.
« À présent, venez, il faut l'accorder à votre potager. » Une fois dehors, elle m'envoya couper une branche fourchue au moins aussi grande que moi. Quand je revins avec l'objet demandé, je constatai qu'elle avait creusé un trou à l'angle sud-est de mon petit lopin. J'y fichai la fourche, comme elle me l'indiquait, puis comblai l'évidement avec la terre excavée. Ensuite, elle accrocha l'amulette à la dent de droite de la fourche, et quand le vent agita l'objet, les perles s'entrechoquèrent et une clochette tinta. Gina la tapota du bout du doigt.
« Ça éloigne certains oiseaux. »«
Merci. »«
De rien. On se sent bien dans votre propriété, et c'est avec plaisir que j'y laisse une de mes amulettes. Et à ma prochaine visite, je serai curieuse de savoir si elle a eu l'effet escompté. »
C'était la deuxième fois qu'elle évoquait un retour chez moi. Le souvenir des manières que j'avais apprises à la cour me poussa.
« Et à votre prochaine visite, vous serez la bienvenue, tout comme vous l'êtes aujourd'hui. Il me tarde déjà de vous voir revenir. »
Le sourire qu'elle m'adressa accusa les fossettes de ses joues.
« Merci, Tom. Je ferai certainement halte chez vous de nouveau. »
Elle pencha la tête sans me quitter des yeux et déclara avec une brusque franchise.
« Je sais que vous êtes un homme très seul, Tom, mais il n'en sera pas toujours ainsi. J'ai bien vu qu'au début vous doutiez de l'efficacité de mes sortilèges, et vous avez encore des réserves sur mes capacités à lire dans la paume d'une main, mais pas moi. Votre unique et véritable amour est comme faufilé dans votre existence, et il vous reviendra. Cela, n'en doutez pas. »
Ses yeux noisettes me regardaient avec tant de gravité qu'il me fut impossible de lui rire au nez ou de froncer les sourcils. Je me contentais de hocher la tête sans répondre. Je l'observais qui remettait son sac sur son dos et s'en allait à vigoureuses enjambées. Ses paroles me tiraillaient en tous sens, et des espoirs longtemps refoulés s'efforçaient de remonter à la surface. Mais je les chassais impitoyablement de mon esprit. Molly et Burick étaient unis à jamais. Il n'y avait pas de place pour moi dans leur vie. Je redressai les épaules. Des travaux m'attendaient, du bois à rentrer, du poisson à fumer et un toit à réparer. La journée s'annonçait belle. Mieux valait que j'en profite car, même s'il était souris, l'hiver n'est jamais loin.